Chapitre 10. Ozo, les maîtres d'hôtel, quand ils assignent un appartement aux voyageurs, se fondent bien moins sur le désir de ceux-ci que sur leur propre appréciation, et il faut remarquer qu'ils se trompent rarement. L'appartement de la Babouchka était d'un luxe vraiment excessif. 4 magnifiques salons, une chambre de bain, 2 chambres pour les domestiques, une autre pour la dame de compagnie. On fit voir la Babouchka toutes ses chambres, qu'elle examina sévèrement. On avait inscrit sur le livre de l'hôtel « Madame la générale princesse de Tarasevitcheva ». De temps en temps, la Babouchka se faisait arrêter, indiquait quelques meubles qui lui déplaisaient et posait des questions inattendues au maître d'hôtel qui commençait à perdre contenance. Par exemple, elle s'arrêtait devant un tableau, une médiocre copie de quelque célèbre composition mythologique, et disait « De qui ce portrait ?» Le maître d'hôtel répondait que ce devait être celui d'une certaine comtesse. « Comment, de qui? Pourquoi le sais-tu pas? Et pourquoi louche-t-elle ?» Le maître d'hôtel ne savait que dire. « Sot !» dit la Babouchka en russe. Enfin, la Babouchka concentra toute son attention sur le lit de sa chambre à coucher. « C'est bien, dit-elle, c'est riche. Faites donc voir. » On défit un peu le lit. « Davantage, ôtez les oreillers, soulevez les matelas. » La Babouchka examina tout attentivement. « Pas de punaise, bien. Enlevez tout le linge et qu'on mette le mien et mes oreillers. Tout ça est trop riche, qu'en ferais-je? Je m'ennuierais seul là-dedans. Alexis Ivanovitch, tu viendras chez moi souvent quand tu auras fini de donner ta leçon aux enfants. » « Mais, répondis-je, depuis hier, je ne suis plus au service du général. Je vis à mon compte. »« Pourquoi donc ?»« Voici, il y a quelques jours, sont arrivés de Berlin un illustre baron et sa femme. Hier, à la promenade, je leur ai dit quelques paroles en allemand, mais sans arriver à reproduire exactement la prononciation de Berlin. Et alors ?» Mais le baron a pris cela pour une injure et s'est plaint au général qui m'a donné congé. Mais quoi, tu l'as réellement injurié? Et puis quand tu l'aurais injurié? Non, 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 c'est au contraire le baron qui m'a menacé de sa canne. Mais es-tu donc si lâche, toi, que tu permettes de traiter ainsi ton Uchitel? Dit-elle violemment au général. « Et tu l'as chassé, imbécile! Mais vous êtes tous des imbéciles, tous !»« Ne vous inquiétez pas, ma tante, répondit le général, non sans hauteur. Je sais me conduire. D'ailleurs, Alexis Ivanovitch ne vous a pas raconté la chose très exactement. Et toi, alors, tu as supporté cela ? » continua-t-elle en revenant à moi. Moi, je voulais demander une réparation d'honneur, répondis-je avec tranquillité, et le général s'y est opposé. Et pourquoi t'y es-tu opposé? Mais excusez, ma tante, les duels ne sont pas permis, dit le général en souriant. Comment pas permis? Et le moyen d'empêcher les hommes de se battre, vous êtes des sots. Vous ne savez pas défendre le nom de Russe que vous portez. Allez, soulevez-moi. Et toi, Alexis Ivanovitch, ne manque pas de me montrer ce baron à la promenade, ce faux baron. Et la roulette, où est-elle? J'expliquai que la roulette se trouvait dans le salon de la gare. Elle me demanda alors s'il y avait beaucoup de joueurs, si le jeu durait toute la journée, en quoi consistait le jeu? Je répondis enfin qu'il valait mieux qu'elle vît la chose de ses propres yeux, Car la meilleure explication n'en pourrait donner qu'une idée très imparfaite. Eh bien, menez-moi tout de suite à la gare. Marche devant, Alexis Ivanovitch. Comment, ma tante, vous ne prendrez pas d'abord un peu de repos? Le général et tous les siens semblaient inquiets. Ils redoutaient quelque excentricité publique de la babouchka. Cependant, ils avaient tous promis de l'accompagner. Mais je ne suis pas fatigué. Voilà 5 jours que je n'ai pas bougé. Nous irons visiter les sources et puis ce Schlangenberg. C'est bien cela, dit Praskovia. Oui, babouchka. Et qu'y a-t-il encore à voir? Beaucoup de choses, babouchka, dit Paulina, avec un air embarrassé. Oui, je vois, tu ne sais pas toi-même. Marfa, tu viendras avec moi à la roulette, dit-elle à sa dame de compagnie. Mais cela ne se peut pas, ma tante, on ne laissera entrer ni Marfa ni Popavitch. Quelle bêtise, parce que c'est un domestique. Mais c'est un homme tout de même. Et je suis sûr qu'il désire aussi voir tout cela. Et avec qui pourrait-elle y aller si ce n'est avec moi? Mais babouchka, ah, tu honte de moi? Reste, on ne te demande pas de venir. Vois-tu ce général? Mais je suis général moi-même. Et en effet, tu as raison, j'ai pas besoin de toute cette suite. Alexis Ivanovitch me suffira. Mais de Griet insista pour que tout le monde accompagnât la babouchka. Et il trouva quelques mots aimables sur le plaisir tout particulier, etc. On se mit en route. Elle est tombée en enfance, répétait de Griers au général. Si on la laisse aller seule, elle fera des folies. Je n'entendis pas le reste de la conversation. Mais évidemment, de Griers avait déjà de nouveaux projets et reprenait espoir. Il y avait une demi-verste de l'hôtel jusqu'à la gare. Le général était un peu rassuré, pourtant, il craignait visiblement la roulette. Qu'allait faire là une vieille impotente? Paulina et Mademoiselle Blanche marchaient chacune d'un côté du fauteuil. Mademoiselle Blanche était gaie, ou du moins affectait de l'être. Paulina s'efforçait de satisfaire la curiosité de la vieille dame qui l'accablait de questions. Monsieur Astley me dit à l'oreille, la matinée ne s'achèvera pas sans incident. Potapitch et Marfa se tenaient derrière le fauteuil. Le général et de Griers un peu à l'écart, causaient avec animation. Ce dernier semblait donner des conseils. Mais que faire contre la terrible phrase de la babouchka? Je ne te donnerai rien. Et le général connaissait bien sa tante. Il n'avait plus d'espoir. De Griers et Mademoiselle Blanche se faisaient des signes. Nous fîmes à la gare une entrée triomphale. Les domestiques de l'endroit montrèrent autant d'empressement que ceux de l'hôtel. La babouchka commença par ordonner qu'on la portât dans tous les salons. Enfin, on arriva à la salle de jeu. Les laquais qui gardaient les portes les ouvrirent à deux battants. À l'extrémité de la salle où se trouvait la table de 30 et 40, se pressaient de 100 à 200 joueurs. Ceux qui parvenaient jusqu'aux chaises de cette table sacrée ne quittaient guère leur place avant d'avoir perdu tout leur argent, car il n'était pas permis d'occuper ce rang en simple spectateur. Ceux qui se tenaient debout attendaient leur tour. Quelques-uns même pontaient par-dessus les têtes des joueurs assis. Du troisième rang, il y avait des habitués qui réussissaient à poser leur mise. On se disputait à propos de mises égarées. Car il arrive qu'un filou se glisse parmi tous ces honnêtes gens et prennent sous leurs yeux une mise qui ne lui appartient pas en disant « Mais c'est la mienne !» Les témoins sont indécis, le voleur est habile et surtout effronté, et il empoche la somme. La babouchka regardait tout cela de loin, avec la curiosité d'une paysanne presque sauvage. Ce fut surtout la roulette qui lui plut. Enfin, elle voulut voir le jeu de plus près. Comment cela se passa-t-il, je ne sais. Le fait est que les valets, très empressés, ou des Polonais ruinés pour la plupart, lui trouvèrent aussitôt une place, malgré l'affluence extraordinaire des joueurs. On posa le fauteuil à côté du principal croupier. On se pressa contre la table pour mieux voir la babouchka. Les croupiers fondaient quelque espérance sur un joueur si excentrique, une vieille femme paralysée. Je me mis auprès d'elle, les nôtres restèrent parmi les spectateurs. La babouchka regarda d'abord les joueurs. Un jeune homme surtout l'intéressa. Il jouait gros jeu de fortes sommes et avait déjà gagné une quarantaine de mille francs amoncelés devant lui en pièces d'or et en billets. Il était pâle, ses yeux étincelaient, ses mains tremblaient. Il pontait sans compter à pleine main et il gagnait toujours. Les laquais s'agitaient derrière lui, lui offraient un fauteuil, lui faisaient de la place dans l'espérance d'un riche pourboire. Près de lui était assis un petit Polonais qui se démenait de toutes ses forces et humblement ne cessait de lui parler à l'oreille, le conseillant sans doute pour ses mises, régularisant son jeu, lui aussi dans l'espérance d'une rémunération. Mais le joueur ne le regardait ni ne l'écoutait, pontait au hasard, et gagnait. La babouchka l'observa pendant quelques instants. « Dis-lui donc, » fit-elle tout à coup en s'adressant à moi, « dis-lui donc de quitter le jeu et de s'en aller avec son gain, car s'il continue, il va tout perdre d'un coup. » La respiration lui manquait tant elle était agitée. « Ouais, Potapitch, envoie-lui Potapitch, entends-tu » Et elle me poussait du coude. « Où est-il donc, ce Potapitch ? Sortez, allez-vous-en » cria-t-elle elle-même au jeune homme. Je me penchai vers elle et lui dis d'un ton assez bref que ses manières n'étaient pas admises à la table de jeu, qu'il n'y est même pas permis de parler à haute voix, et qu'on allait nous mettre à la porte. « Mais quel dommage, il est perdu, ce pauvre garçon. Mais il y travaille, certes, lui-même, je ne puis pas le regarder sans dépit. Oh, quel sot !» Et la babouchka se tourna d'un autre côté. À gauche, à l'autre extrémité de la table, on remarquait parmi les joueurs une jeune dame accompagnée d'un très petit homme. Qui était cette espèce de nain? Peut-être un parent, ou bien s'en faisait-elle suivre pour attirer l'attention? J'avais déjà vu cette dame. Elle venait régulièrement à la gare à 1 h de l'après-midi et partait ensuite à 2. Elle avait son fauteuil marqué. Elle sortait de sa poche une certaine quantité de pièces d'or, plusieurs billets de 1 000 et pontait tranquillement, froidement, en calculant et en cherchant, au moyen d'opérations tracées au crayon sur son calepin, à supputer les probabilités de perte ou de gain. Ses mises étaient grosses. Elle gagnait tous les jours 2 000, quelquefois 3 000 francs, et s'en allait aussitôt. La babouchka la regarda longuement. « Ah, celle-ci ne perdra pas, dit-elle. Qui est-ce ? » « Oh, une Française, probablement, » lui répondis-je tout bas. « Ah, cela se voit, oui. Explique-moi maintenant la marche du jeu. » Je lui donnai les explications les plus claires possibles, sur les nombreuses combinaisons de rouge et noir, paire et impaire, manque et passe, et sur les diverses nuances des systèmes de chiffres. Elle écoutait attentivement, questionnait sans cesse et se pénétrait de mes réponses. Et que signifie le zéro? Le croupier principal a crié tout à l'heure zéro et a ramassé toutes les mises. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, le zéro babouchka est pour la banque. Toutes les mises lui appartiennent quand c'est sur le zéro que tombe la petite boule. Et alors personne ne gagne? Ah, le banquier seulement. Pourtant, si vous aviez ponté sur le zéro, on vous paierait 35 fois votre mise. Et cela arrive souvent, et pourquoi ne pontent-ils donc jamais sur le héros, ces imbéciles? Parce qu'on n'a qu'une chance contre 35. Quelle bêtise! Pas à pitch! Ah ben non, j'ai mon argent sur moi. Et elle tira de sa poche une bourse bien garnie et y prit un florin. Là, mets-le tout de suite sur le zéro. Babouchka, le zéro vient de sortir. C'est un mauvais moment pour jouer sur ce chiffre. Attendez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mets-le où je te dis. Soit, mais le zéro ne peut plus sortir aujourd'hui. Et si vous vous entêtez, vous pouvez y perdre 1 000 florins. Des bêtises. Quand on craint le loup, on ne va pas au bois. C'est perdu? Bon, mais encore. Le deuxième florin fut perdu comme le premier. J'en mis un troisième. La babouchka ne tenait pas en place. Elle semblait vouloir fasciner la petite boule qui sautait sur les rayons de la roue. Le troisième florin fut encore perdu. La babouchka était hors de soi. Elle donna un coup de poing sur la table quand le croupier appela 36 au lieu du zéro attendu. Canaille ! S'écriait-elle. Ce maudit petit zéro ne veut donc pas sortir. Je veux rester jusqu'à ce qu'il sorte. C'est ce scélérat de croupier qui l'empêche de sortir. Alexis Ivanovitch, mets 2 louis d'or à la fois. Autrement, nous ne gagnerons rien, même si le zéro sortait. Babouchka, mais, je n'ai pas ton argent. Je mis les 2 louis. La petite boule roula longtemps et enfin se mit à sauter plus doucement sur les rayons. La babouchka était comme hypnotisée et serrait ma main. Tout à coup, boum, zéro, cria le croupier. Tu vois, dit vivement la babouchka toute rayonnante. C'est Dieu lui-même qui m'a donné l'idée de mettre 2 louis. Combien vais-je avoir? Pourquoi ne me donne-t-il pas d'argent? Potapitch, Marfa, où sont-ils? Où sont les nôtres, Potapitch? Babouchka, Potapitch est à la porte, on ne l'a pas laissé entrer. Voyez, on vous paie, prenez. On jetait à la babouchka un gros rouleau de 50 louis, enveloppé dans du papier bleu, 20 louis en monnaie. Je ramassai le tout devant la babouchka. « Faites le jeu, messieurs, faites le jeu, rien ne va plus !» cria le croupier au moment de mettre en branle la roulette. « Dieu, oh, nous sommes en retard, mais donc vite !»« Où ?»« Mais sur le zéro, encore sur le zéro !»« Et mais le plus possible !»« Combien avons-nous gagné ?»« 70 louis !»« Oh non, pourquoi garder cela ?»« Mais 20 louis à la fois !» Mais vous n'y pensez pas, babouchka, il peut rester 200 fois sans sortir. Vous y perdrez votre fortune. Mensonge, bêtise, mais te dis-je, assez parlé, je sais ce que je fais. D'après le règlement, on ne peut mettre plus de 12 louis sur le zéro. Voilà, j'ai mis les 12. Pourquoi? Ne fais-tu pas des histoires? Monsieur, cria-t-elle en poussant le coude du croupier, combien sur le zéro? 12, 12. Je me hâtais d'expliquer la chose en français. Oui, madame, répondit avec politesse le croupier, de même que chaque mise ne doit pas dépasser 4 000 florins. C'est le règlement. Ah, alors, c'est bien, 20 pour 12. Le jeu est fait, cria le croupier. La roue tourna et le nombre 13 sortit. Perdu. Encore, encore, encore. Je ne résistais plus. Je ne fis que hausser les épaules et je mis 12 nouveaux louis. La rue tourna longtemps. La babouchka tremblait. Espère-t-elle sérieusement que le zéro va encore sortir? Me demandai-je avec étonnement. Mais l'assurance décisive du gars rayonnait sur son visage. La petite boule tomba dans la cage. « Zéro !» cria le croupier. « Quoi ? Eh bien, tu vois, me dit la babouchka, avec une indescriptible expression de triomphe. » J'étais moi-même joueur, jamais je ne le sentis plus qu'en cet instant. Mes mains frémissaient, la tête me tournait. Certes, le cas était rare, 3 zéros sur 10 coups. Pourtant, cela n'était pas extraordinaire. 3 jours auparavant, j'avais vu le zéro sortir 3 fois de suite. Tout le monde rivalisa d'amabilité pour la babouchka. On lui régla son gain avec humilité. Elle avait à recevoir 420 louis, c'est-à-dire 4 000 florins et 20 louis. Cette fois-ci, la babouchka n'appela plus Potapitch. Elle ne tremblait plus, extérieurement du moins. Elle tremblait, pour ainsi dire, intérieurement. « Alexis Ivanovitch, il a dit qu'on peut mettre 4 000 florins, n'est-ce pas ?»« Eh ben, mets les 4 000 sur le rouge. » La roue tourna. « Rouge !» cria le croupier. Cela faisait donc en tout 8 000 florins. « Allez, donne-moi 4 000 et mets les 4 autres 1 000 sur le rouge. » J'obéis. « Rouge !»« Ah, ça fait 12, donne-les-moi. Mets l'or dans ma bourse et cache les billets. » En voilà assez, rentrons. » Chapitre 11. On roula vers la porte le fauteuil de la babouchka. Elle était rayonnante. Tous les nôtres la félicitèrent. Malgré son excentricité, son triomphe semblait lui avoir fait une auréole et le général ne craignait plus de se montrer en public avec elle. Avec une familiarité souriante, il adressa à la babouchka des compliments pareils à ceux qu'on donne à un enfant. Visiblement, il était étonné, comme tous les autres assistants, qui parlaient entre eux en se montrant la babouchka. Plusieurs s'approchèrent pour la mieux voir. M. Astley parlait avec elle et avec deux de ses compatriotes. Les dames l'examinaient avec curiosité. De Grillet était au petit soin pour elle. « Quelle victoire » disait-il. « Mais madame, c'était du feu !» ajouta avec un sourire obséquieux Mademoiselle Blanche. « Eh oui, voilà, j'ai gagné 12 000 florins, sans compter l'or. Avec l'or, ça fait 13, 6 000 roubles de notre monnaie, hein ?»« Plus de 7 000, lui dis-je, peut-être 8 au cours actuel. » « C'est pas une plaisanterie, 8 000 roubles, Potapitch, Marfa, avez-vous vu ?»« Ma petite mère, comment avez-vous fait ?» s'exclamait Marfa. « 8 000 roubles ? Allez, voilà 5 louis pour chacun de vous. » Potapitch et Marfa se précipitèrent pour lui baiser les mains. Donne un louis à chacun des porteurs, Alexis Ivanovitch. Ce sont des laquais, ces gens-là qui me saluent, ben donne-leur un louis à chacun. Madame la princesse, un pauvre expatrié, malheur continuel, ces princes russes sont si généreux. C'était un homme vêtu d'un veston usé, d'un gilet de couleur qui tournait autour du fauteuil en tenant sa casquette très haut au-dessus de sa tête. Allez, donne-lui aussi un louis, non, deux louis. Bon, assez maintenant, nous n'en finirions plus. Levez-moi et marchons. Praskovia, je t'achèterai demain une robe. Et à l'autre, mademoiselle Blanche, je lui achèterai aussi une robe. Dis-le-lui en français, Praskovia. Merci, madame, fit mademoiselle Blanche, avec un sourire ironique et gracieux, en cliant de l'œil à De Griet et au général. Le général ne dissimulait pas son embarras et poussa un soupir de soulagement quand nous arrivâmes à l'hôtel. Hé, Fédosia ! Récria la babouchka en se rappelant la vieille bonne du général. Elle aussi va être étonnée. Je vais aussi lui acheter une robe. Alexis Ivanovitch, donne donc quelque chose à ce mendiant. Et toi, Alexis Ivanovitch, t'as pas encore tenté ta chance ? Non. Je voyais pourtant bien tes yeux étinceler. J'essaierai, babouchka, plus tard. Et ponte seulement sur le zéro, tu verras. Combien as-tu d'argent ? 20 louis, babouchka. C'est pas assez. Oh, je t'en prêterai 50, moi, si tu veux. Prends ce rouleau-là. Et toi, mon petit père, dit-elle tout à coup au général, n'y compte pas, hein, c'est inutile, t'en auras rien. Le général eut une crispation singulière. De Griet fronça le sourcil. La terrible vieille, dit-il entre ses dents au général. Un autre mendiant, un mendiant, cria la babouchka, donne-lui aussi un florin. Cette fois-ci, c'était un personnage très vieux, avec une jambe de bois, une longue redingote bleue, et qui s'appuyait sur une canne pour marcher. On eût dit un vieux soldat. Mais quand je lui offris un florin, il fit un pas en arrière et me regarda avec colère. « Vasis, der Teufel ? Qu'est-ce que c'est, que diable ? » dit-il et il me gratifia d'une dizaine d'injures. « Imbécile ! » cria la babouchka en me faisant signe de le laisser là. « Allons, j'ai faim. Il faut dîner tout de suite. Je dormirai un peu et puis nous retournons à la roulette. »« Vous voulez retourner, babouchka ? » m'écriai-je. « Pourquoi pas ? Parce que vous restez ici, vous ennuyez, il faut que je fasse comme vous. » « Mais madame, dit De Griet, les chances peuvent tourner. » Vous pouvez tout perdre d'un seul coup. Surtout avec votre jeu, c'était terrible. Mais oui, vous perdrez certainement, Miola, mademoiselle Blanche. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est pas votre argent, je perdrai, c'est le mien. Et où est monsieur Astley ?
Il est resté à la gare, babouchka.
C'est dommage, c'est un brave garçon.
En arrivant à l'hôtel, la babouchka appela le majordome et lui apprit son gain. Puis elle appela Fédosia, lui donna 3 louis et demanda à dîner.
« Alexis Ivanovitch, sois prêt, vers 4 heures, nous irons ensemble à la roulette. En attendant, au revoir et n'oublie pas de m'amener quelques docteurs, il faut que je prenne les os. »
Je sortis de chez la babouchka comme étourdi. Je tâchais de m'imaginer quelle tournure allaient prendre les affaires. Le général et les autres étaient déconcertés. L'arrivée inattendue de la babouchka avaient détruit toutes leurs espérances. Cependant, l'aventure de la roulette était pour eux plus importante encore. Car, quoique la babouchka eût dit deux fois qu'elle ne donnerait pas d'argent au général, du moins ils conservaient encore un dernier espoir. Mais maintenant, après les exploits de la vieille dame à la roulette, maintenant, peut-être, tout était bien compromis. Chaque louis qu'elle risquait était comme un coup de couteau dans le cœur du général. C'était extrêmement dangereux. Et toutes ces réflexions m'agitaient tandis que je regagnais ma chambre au dernier étage de l'hôtel. Je ne connaissais pas tous les facteurs du problème que je voulais résoudre. Paulina ne m'avait jamais parlé avec une entière franchise. Presque toujours, après m'avoir fait quelques confidences, elle les tournait en ridicule et me jurait que tout cela était faux. Toutefois, je pressentais que le mystère touchait à sa fin. Ma propre destinée ne m'intéressait presque pas. Étrange disposition d'esprit. Je ne possédais que 20 louis. J'étais parmi des étrangers, sans position, sans moyen d'existence, sans espérance. Et pourtant, je n'avais à mon propre sujet aucun souci. N'eût été mon inquiétude à propos de Paulina, j'aurais ri bien volontiers en me demandant quel devait être le dénouement de tout ceci. Je sentais que la destinée de cette jeune fille était en jeu, mais je dois avouer que ce n'était pas sa destinée qui m'inquiétait le plus, c'était son secret. J'aurais voulu la voir venir à moi et me dire « Tu sais bien que je t'aime. » Mais... s'il n'en est rien, alors que désirer désormais? Et sais-je au juste ce que je désire? Je voudrais ne jamais la quitter, vivre dans son orbite, dans sa lumière, pour toujours, pour toute la vie. Je n'ai plus une seule autre pensée. Je ne pourrais même pas vivre loin d'elle. Au troisième étage, dans le corridor du général, je ressentis comme une secousse intérieure. Je me retournai, et à 20 pas, j'aperçus Paulina. Évidemment, elle m'attendait. Dès qu'elle me vit, elle me fit signe de m'approcher. « Paulina Alexandrovna, chut !»« Imaginez-vous, dis-je à voix basse, que je viens de sentir une secousse. Je me retourne ?» Je vous vois. Est-ce qu'il émane de vous un fluide électrique? Prenez cette lettre, dit-elle d'un air soucieux, probablement sans avoir entendu mes paroles, et remettez-la à Monsieur Hatzley, tout de suite, je vous en prie. N'attendez pas de réponse. Lui-même, elle n'acheva pas. À Monsieur Hatzley? Demandai-je avec étonnement. Mais Paulina avait déjà disparu. Ah, ah, ils s'écrivent. Je courus, cela va sans dire, chez M. Astley. Il n'était ni à son hôtel, ni à la gare. Enfin, je le rencontrai au milieu d'une cavalcade d'anglaises et d'anglaises. Je lui fis signe, il s'arrêta, et je lui remis la lettre. Nous n'eûmes pas même le temps de nous regarder. Mais je soupçonne M. Astley d'avoir fouetté exprès son cheval. Étais-je torturé par la jalousie? En tout cas, mon humeur était exécrable. Je n'aurais pas voulu connaître le sujet de leur correspondance. Un ami, pensais-je, c'est clair. Un amant? Certainement non, me disait la raison. Mais la raison est peu de chose dans ces sortes d'affaires. Il y avait encore un point à élucider. L'affaire se compliquait. À peine eus-je le temps de rentrer à l'hôtel que le concierge et le majordome m'informèrent qu'on était déjà venu me chercher 3 fois de la part du général. Chez le général, je trouvai, outre le général lui-même, De Griers et Mademoiselle Blanche, celle-ci sans sa mère. Décidément, cette mère n'était qu'un personnage de parade. Tous les trois discutaient avec chaleur. La porte du cabinet, chose anormale, était fermée. J'entendis, avant d'entrer, De Griers qui parlait à haute voix et d'un ton persifleur. Mademoiselle Blanche avait le verbe injurieux, et le général suppliait, son accent était larmoyant. À ma vue, ils se turent subitement. De Griers sourit tout à coup, de ce sourire français officiellement aimable que je déteste. Le général se redressa machinalement. Seule Mademoiselle Blanche conserva sa physionomie irritée. Pourtant, elle fixa sur moi un regard d'attente impatiente. D'ordinaire, elle faisait semblant de ne pas me voir. « Alexis Ivanovitch, commença le général avec une bienveillance marquée, permettez-moi de vous déclarer qu'il est étrange, très étrange, en un mot, que votre conduite à mon égard et à l'égard de toute ma famille, oui, en un mot, c'est étrange, excessivement étrange. Non, c'est pas cela, interrompit De Griers avec mépris et dépit. Non, cher monsieur, notre cher général se trompe en prenant ce ton. Il voulait vous dire, c'est-à-dire vous prévenir, ou pour parler plus justement, vous prier instamment de ne pas consommer sa perte. Eh bien oui, de ne pas le perdre. J'emploie avec intention ce mot. Mais comment, interrompis-je, que voulez-vous dire? Eh bien, vous vous êtes constitué le mentor de cette terrible vieille. Considérez donc qu'elle va se ruiner. Vous avez vu vous-même comment elle joue. Si elle commence à perdre, elle ne quittera plus la roulette par entêtement. Elle jouera toujours, et vous savez qu'on ne répare pas ainsi ses pertes. Et alors, reprit le général, vous me perdez, moi et ma famille, qui sommes ses héritiers. Elle n'a pas de plus proche parent que nous. Je vous parle franchement, nos affaires vont mal, très mal. Vous deviez d'ailleurs vous en douter déjà. Mais si elle fait des pertes considérables, ô Dieu, que deviendrons-nous? Le général se tourna vers De Griers. Alexis Ivanovitch, sauvez-nous, sauvez-nous! Mais, général, que puis-je en tout ceci? Ben, refusez-vous à la guider, abandonnez-la! Mais un autre prendra ma place. C'est pas ça, interrompit De Griers, que diable! Non, 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 ne l'abandonnez pas, mais plutôt persuadez-la! Ne la laissez pas risquer trop d'argent! Mais comment le pourrais-je faire? Essayez donc vous-même, monsieur De Griers, ajoutai-je avec l'expression la plus naïve que je pus. Je surpris à ce moment un regard expressif et interrogateur de Mademoiselle Blanche à De Griers. De Griers lui-même laissa voir une émotion qu'il ne put maîtriser. Allons donc, elle ne m'écouterait pas maintenant, s'écria-t-il avec un geste désespéré. Ah, si, après. Oh, mon cher Alexis, soyez assez bon, me dit à son tour Mademoiselle Blanche elle-même, en me serrant fortement les deux mains. Oh, que le diable l'emporte, cette figure de démon s'avait changée en un instant. Elle était alors si charmante, si enfant, si espiègle. Elle me lança encore un regard furtif que les autres ne purent voir. Que voulait-elle? Mais c'était un peu trop primitif et trop simple. « Alexis Ivanovitch, reprit le général, pardonnez-moi le ton que j'ai pris tout à l'heure, c'est pas ainsi que je voulais vous parler. Je vous en prie, je vous en supplie, laissez-moi vous saluer jusqu'à la ceinture à la russe. Vous seul pouvez nous sauver. Mademoiselle de Comminges et moi, nous vous supplions. Comprenez, comprenez donc, ajouta-t-il en me montrant du coin de l'œil, Mademoiselle Blanche. Oh, il était dégoûtant. Trois coups discrets furent frappés à la porte. C'était un domestique qui précédait Potapitch. Tous deux étaient envoyés par la babouchka. On me cherchait, on me voulait tout de suite. « On se fâche !» me dit Potapitch. « Mais il n'est pas 3 heures et demie !» Elles n'ont pas pu dormir, elles étaient agitées. Puis elles se sont levées, ont demandé le fauteuil et ont envoyé vous chercher. Elles vous attendent sur le perron. « Quelle mégère !» s'écria de Grillet. En effet, la babouchka m'attendait. Elle était hors d'elle-même d'impatience. Nous allâmes aussitôt à la roulette. Chapitre 12. La babouchka semblait très excitée. Tout ce qui ne concernait pas la roulette lui était indifférent. À la gare, on l'attendait déjà comme une victime. Et en effet, les craintes des nôtres se réalisèrent. La babouchka s'attaqua de nouveau au zéro. Tout de suite 12 louis. Une fois, deux fois, trois fois, le zéro ne sortait pas. « Mais, me commanda-t-elle, j'obéissais. « Combien de mises déjà ?» me demanda-t-elle en grinçant les dents d'impatience. « 12 déjà, ça fait 144 louis. » « Je vous répète, babouchka, que peut-être jusqu'au soir... »« Tais-toi, pompe sur le zéro et mets en même temps 1000 florins sur le rouge. » Le rouge sortit, mais le zéro ne vint pas. « Tu vois, nous avons presque tout regagné. Allez, encore sur les zéros. Encore 10aine de fois et puis nous l'abandonnerons. » Mais à la 5e fois, la babouchka se découragea. « Allez, envoie le zéro au diable et mets 4000 florins sur le rouge. »« Babouchka, c'est trop !» Je faillis être battu. Je mis 4000 florins sur le rouge. La roue tourna. La babouchka ne sentait pas douter du succès. « Zéro !» appela le croupier. D'abord, la babouchka ne comprit pas. Mais quand elle vit le croupier ramasser les 4000 florins avec toutes les mises, et que le zéro sortait juste au moment où elle l'abandonnait, elle fit « Ah !» et frappa ses mains l'une dans l'autre. On rit autour d'elle. « Mon Dieu » cria-t-elle, « c'est justement maintenant qu'il sort. C'est ta faute, me dit-elle, c'est toi qui m'as conseillé d'abandonner le zéro. » « Mais babouchka, je vous ai dit ce qui est vrai. Puis-je répondre des hasards ?»« Va-t'en » cria-t-elle avec colère. Je fis mine de m'en aller. « Ah, Alexis Ivanovitch, reste. Où vas-tu ? Voilà qu'il se fâche, l'imbécile. Non, reste, ne fâche pas. C'est moi qui ai tort. Dis-moi ce qu'il faut faire. » « Je ne vous conseille plus, babouchka, vous m'accuseriez encore si vous perdiez. Jouez seul, ordonnez, je ferai ce que vous voudrez. »« Allons, allez, mets encore 4000 florins sur le rouge. Tiens !» Elle me tendit son portefeuille. « J'ai là 20 000 roubles. »« Babouchka, je veux regagner mon argent, ponte !» J'obéis, nous perdîmes. « Mais en 8 000 !»« Cela ne se peut pas, babouchka, la plus grosse mise est de 4 000 !»« Alors, on va donc pour 4 !» Cette fois, nous gagnâmes, elle reprit courage. « Tu vois, allez, encore 4 000 !» J'obéis, nous perdîmes, puis encore et puis encore. « Babouchka, tous les 12 sont partis !» « Je vois bien, » dit-elle avec une sorte de rage tranquille. Je vois bien, mon petit père, je vois bien. Allez, ben encore 4000 florins. Mais il n'y a plus d'argent, babouchka. Il n'y a plus que des obligations et des chèques dans le portefeuille. Et dans la bourse? Oh, il n'y a que de la menue monnaie. Y a-t-il ici des changeurs? On m'a dit qu'on peut se compter ici, toute espèce de papier. Oh, tant que vous voudrez, mais vous perdrez à l'escompte des sommes énormes. Bêtise, je regagnerai tout ce que j'ai perdu. Allez, roule-moi vers eux, qu'on appelle ces imbéciles. Les porteurs vint. Vite, commanda-t-elle. Montre la route, Alexis Ivanovitch, est-ce loin? Oh non, à deux pas, babouchka. À un coup d'une allée, nous rencontrâmes tous les nôtres, le général, De Grillet et Mademoiselle Blanche avec sa mère. Paulina, Alexandrovna et M. Hatzlay seuls manquaient. Allons, ne t'arrête pas, criait la babouchka. Que veulent-ils? J'ai pas le temps de m'occuper d'eux. Je la suivais derrière son fauteuil. Et De Grillet courut à moi. Ben, elle a perdu tout son gain et 12 000 florins en plus. Nous roulons maintenant pour aller changer les obligations, lui dis-je à voix basse. De Grillet frappa du pied avec rage et se précipita vers le général. Nous continuâmes notre route. Arrêtez, arrêtez! Me criait le général hors de lui. Ben, essayez donc! Lui répondis-je. Ma tante, dit le général, ma tante. Tout à l'heure, sa voix tremblait. Nous allons louer les chevaux pour faire une promenade hors de la ville. Une vue splendide, Schlagenberg. Nous venions vous chercher. Que le diable t'emporte avec ton Schlagenberg, dit la babouchka avec fureur. C'est la campagne, tout à fait. Nous y boirons du thé, ajouta encore le général, absolument désespéré. Et nous y boirons du lait sur l'herbe fraîche, renchérit De Grillet, avec une colère concentrée de bête fauve. Du lait, de l'herbe fraîche, n'est-ce pas l'idylle et l'idéal des bourgeois de Paris? C'est pour le seul aspect de la nature véritable. Va-t'en donc avec ton lait, mettant jusqu'aux yeux, moi j'en ai déjà trop. Et puis que voulez-vous de moi? Je vous dis que j'ai pas le temps. « Nous sommes arrivés, babouchka, lui dis-je, c'est ici. » Nous arrivions à la banque. J'entrai pour faire faire l'escompte. La babouchka resta à la porte avec le général, De Grillet et Blanche, qui ne savaient quelle contenance prendre. Enfin, ils reprirent le chemin de la roulette. On me proposa des conditions d'escompte si terribles que je ne pus prendre sur moi de les accepter. Je revins à la babouchka. « Oh, les brigands » cria-t-elle. « Eh bien, tant pis, change. »« Non, non, hein, appelle ici le banquier. »« Un employé, babouchka. »« Sois les brigands !» L'employé consentit à sortir quand il sut que c'était une vieille comtesse impotente qui le demandait. La babouchka lui fit de longs reproches, le traita de voleur, essaya de marchander avec lui, en lui parlant une étrange langue composée de mots russe, allemand et français. L'employé, très grave, nous examinait tous deux en hochant silencieusement la tête. Sans cacher assez sa curiosité, il en était impoli. Enfin, il sourit. « Eh bien, va-t'en !» cria la babouchka. « Change, Alexis Ivanovitch !» Je changeais 12 000 florins. Je portais le compte à la babouchka. « Bien, 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 nous n'avons pas le temps de compter. Allons vite. Plus jamais, hein, ni sur le zéro, ni sur le rouge. » Cette fois, je tâchais de modérer ses mises en lui persuadant que nous serions toujours à temps pour hasarder davantage quand la chance aurait tourné. Mais elle était si impatiente qu'on ne pouvait la retenir. Dès qu'elle gagnait une douzaine de louis, elle disait « Tu vois, ça revient pour nous. Si nous avions mis 4 000 florins au lieu de 12 000, nous aurions gagné 4 000 autres florins. C'est toujours toi.
Tout à coup, De Griers se rapprocha. Je remarquai, en me retournant, que Mademoiselle Blanche, à l'écart avec sa mère, faisait la cour au petit prince. Il était clair que le général était en disgrâce. Blanche ne regardait même pas. Il pâlissait, rougissait, tremblait, ne suivait même plus le jeu de la babouchka. Enfin Blanche et le petit prince sortirent. Le général les suivit. « Madame, madame, » dit d'une voix doucereuse De Griers, « babouchka, madame, on ne joue pas ainsi, vraiment. »« Et comment alors, apprends-moi à jouer ?» De Griers se mit à lui donner des conseils, à calculer les chances. La babouchka n'y comprenait rien. Enfin, il prit un crayon et se mit à écrire des combinaisons. La babouchka perdit patience. « Va-t'en, tu dis des bêtises. »« Madame, madame, et quand il faut agir, alors il sait plus le conseiller. Allez, va-t'en. »« Mais madame. » Et il recommença ses explications. « Eh bien, mais donc une fois comme il dit, m'ordonna-t-elle, nous allons voir. » De Griers voulait seulement la détourner de jouer trop gros jeu. Il conseillait de jouer à la fois sur un chiffre à part et sur un système de chiffres. Je misais, suivant ses conseils, 1 louis sur chaque série de nombres impairs dans la première douzaine et 5 louis sur le groupe de nombres de 12 à 18 et de 18 à 24, en tout 16 louis. « Zéro !» cria le croupier. Nous perdions tout. « Quel imbécile !» s'écria la babouchka. « Oh, le vilain français ! Va-t'en, va-t'en ! Il comprend rien, il se mêle de conseiller. » De Griers, très vexé, leva les épaules, regarda la babouchka avec mépris et s'éloigna. En 1 heure, nous avions perdu les 12 000 florins. « Rentrons !» cria la babouchka. Elle ne dit pas un mot jusqu'à l'allée qui conduisait à l'hôtel. Là, elle s'écria tout à coup, « Oh, vieille sotte !» À peine entrée, elle cria, « Du thé, et préparez tout, nous partons !»« Où daignez-vous aller, ma petite mère ?» demanda Marfa. « Est-ce que ça te regarde ?» Potapitch, fais-les mal. Nous retournons à Moscou. J'ai perdu 15 000 roubles. 15 000 roubles, ma petite mère. Allons, imbécile, as-tu fini de pleurnicher? Allez, vite la note et en route. Le premier train ne part qu'à 9h30, babouchka, lui dis-je, pour calmer un peu son ardeur. Quelle heure est-il?
7h30.
Quel ennui! « Tant pis, Alexis Ivanovitch, j'ai pas un copec. Va me changer encore 2 obligations, autrement j'aurais pas de quoi partir. »
Une demi-heure après, ma commission faite, je trouvai tous les nôtres, à l'exception de Paulina, chez la babouchka. La nouvelle de son départ les concernait plus encore que ses pertes. Il est vrai que son départ sauvait sa fortune, mais qu'allait devenir le général? Qui paierait De Griers? Mademoiselle Blanche attendrait-elle la mort de la babouchka? N'allait-elle pas partir avec le petit prince ou quelque autre? Tout le monde s'efforçait donc de retenir la vieille dame. Mais elle criait à pleine voix, « Fichez-moi la paix, tas de diable, ça vous regarde pas !» « Et que me veulent ces 4 poils de bouc ?» elle montrait De Griers. « Et toi, bel oiseau, que me veux-tu ?» elle parlait à Mademoiselle Blanche. « Diantre !» murmura Mademoiselle Blanche, dont les yeux étincelaient de colère. Puis elle éclata de rire et sortit en criant au général. « Elle vivra 100 ans !» Oh, c'est sur ma mort que tu comptais, dit la babouchka au général. Va-t'en, Alexis Ivanovitch, mets-les tous à la porte. Mais de quoi vous mêlez-vous? Mais c'est mon argent à moi que j'ai perdu. Le général haussa les épaules et sortit. De Griers le suivit. Qu'on appelle Praskovia, commanda la babouchka à Marfa. 5 minutes après, Marfa revint avec Paulina, qui était restée dans sa chambre avec les enfants. Son visage était triste et soucieux. Praskovia, est-il vrai que cet imbécile, ton beau-père, veut épouser cette seule petite Française, une actrice, ou peut-être pire encore, hein? Je ne sais pas, babouchka, mais on peut croire. Assez, interrompit énergiquement la babouchka. Je comprends tout. Ah, ça a toujours été le plus futile, le plus vide des hommes. Et il s'étarde de son grade. Et moi, je suis l'histoire des télégrammes envoyés à Moscou. La vieille va-t-elle bientôt mourir? On attendait l'héritage. Sans argent, cette ignoble fille, cette de Comminges, n'est-ce pas, n'en voudrait pas même pour valet de ce fameux général avec ses fausses dents. Et elle est riche elle-même, dit-on. Elle prête sur gage. Elle a dû l'acquérir proprement, cet argent. Toi, Praskovia, je ne t'accuse de rien. Je ne veux même pas réveiller de vieux griefs. Tu as un mauvais caractère, tu es un vrai temps, et tes piqûres sont mauvaises. Mais je te plains quand même, car j'aimais ta mère Katia. Veux-tu les laisser tous et venir avec moi? Tu ne sais où aller, et d'ailleurs il n'est pas convenable que tu restes avec eux dans ces conditions. Tais-toi, continua la babouchka en imposant silence à Paulina, qui voulait répondre. « J'ai pas fini. Je te demande rien. J'ai un palais à Moscou, tu le sais. Je t'offre un étage entier. Tu resteras dans ton appartement sans même me voir si ça te plaît. Veux-tu oui ou non ?»« Permettez-moi d'abord de vous demander si vous êtes irrévocablement décidé à partir tout de suite. Ai-je donc l'air de plaisanter, ma petite mère ?» Je l'ai dit et je le ferai. J'ai été nettoyé aujourd'hui de 15 000 roubles à votre roulette mille fois maudite. Dans mon district, j'ai promis depuis longtemps de faire construire en pierre une église de planches et je me suis laissé souffler ici la somme que je destinais à cela. Eh bien, je la ferai quand même, mon église. Et les os, babouchka, vous êtes venu ici pour suivre un traitement? Eh, va donc avec tes os. Ne me mets pas en colère, Praskovia. Je crois que tu as pris à tâche de mériter. Allez, viens-tu avec moi, oui ou non? Je vous remercie beaucoup, beaucoup, babouchka, pour l'asile que vous m'offrez. Vous avez compris ma situation, je vous en suis reconnaissante. Oui, j'irai chez vous, et bientôt peut-être. Mais maintenant, pour des motifs importants, je ne puis me décider tout de suite. Si vous restiez encore une quinzaine. Ah, cela veut dire que tu refuses. Non, non, cela veut dire que je ne peux pas. Puis-je laisser ici mon frère et ma sœur? Et comme il se peut qu'on les abandonne, alors... Si vous me preniez moi et les enfants, babouchka, j'irai certainement avec vous, et je tâcherai de mériter vos bontés, ajouta-t-elle avec chaleur. Mais sans les enfants, je ne puis accepter. J'ai bien, ne pleure pas. Paulina ne semblait pas avoir l'intention de pleurer, et de fait, elle ne pleurait jamais. Trouverai de la place aussi pour les poussins. Ma maison est assez grande. D'ailleurs, il est temps de les envoyer à l'école. Et alors, tu n'y viens pas tout de suite? Pas en garde, Praskovia. Je te veux du bien. Je n'ignore pas pourquoi tu restes. Je sais tout, Praskovia. le petit français ne te conduira pas au bien. »
Paulina prit feu, je tressaillis.
« Tous sont au courant, excepté moi, pensais-je. Ah »« Allons, ne te fâche pas, je ne veux pas appuyer là-dessus. Je m'en prends garde, tu comprends. Tu es intelligente, ce serait dommage. » Et assez, je voudrais n'avoir vu personne d'entre vous. Allez, va-t'en. Adieu.
Oh, je voudrais vous accompagner, Babouchka, dit Paulina.
Oh, c'est inutile, vous m'envoyez tous. Vous m'ennuyez vraiment tous à la fin.
Et Paulina baisa la main de la Babouchka. Mais celle-ci retira vivement sa main et embrassa Paulina sur la joue. En passant près de moi, Paulina me jeta un coup d'œil rapide et se détourna aussitôt. « Eh bien, adieu toi aussi, Alexis Ivanovitch. Je pars dans une heure. Tu dois être là, de rester toujours avec moi, pendant que c'est 50 louis.
Merci, Babouchka, mais allons, allons. »
Sa voix était si sévère, si énergique, que je n'osais refuser.
Quand tu seras à Moscou, si tu cherches une place, viens chez moi. Allez, maintenant, fiche-moi le camp.
Je montai dans ma chambre et m'étendis sur mon lit. Je restai une demi-heure sur le dos, les mains croisées derrière la tête. La catastrophe avait éclaté. Il y avait de quoi réfléchir. Je résolus de parler dès le lendemain avec décision à Paulina.
Ah, ce petit français, me disais-je, c'est donc vrai. Mais quoi, Paulina et De Griers, quelle antithèse!
C'était incroyable. Je me levai hors de moi pour aller chercher M. Asselet et coûte que coûte l'obliger à dire ce qu'il savait, car il devait en savoir plus que moi. Et ce monsieur Astley, en voilà encore une énigme. Tout à coup, j'entendis frapper à ma porte.
Potapitch, mon petit père Alexis Ivanovitch, on vous demande chez la Babouchka.
Et qu'y a-t-il? Elle part, mais il y a encore 20 minutes à attendre.
On est très inquiet, mon petit père, on ne tient pas en place. Vite, vite! C'est vous, mon petit père, qu'on demande. Au nom de Jésus-Christ, hâtez-vous.
Je descendis vivement. La Babouchka était déjà dans le corridor. Elle avait son portefeuille à la main.
Alexis Ivanovitch, viens, allons.
Où, Babouchka?
Je ne resterai pas vivante si je ne regagne pas mon argent. M'interroge pas, marche. Le jeu ne cesse qu'à minuit, n'est-ce pas?
J'étais stupéfait. Je réfléchis un instant et me décidai aussitôt. Comme vous voudrez, Antonina Vassilievna, mais je n'irai pas.
Et pourquoi cela? Qu'est-ce qui te prend? Vous avez donc tous le diable au corps?
Comme vous voudrez, mais je ne veux pas avoir de reproches à me faire. Je ne serai ni témoin ni complice. « Épargnez-moi, Antonina Vassilievna. Voici vos 50 louis et adieu. » Je déposai le rouleau sur une petite table près de laquelle on avait déposé le fauteuil. Je saluai et partis.
« Quelle bêtise !» cria la Babouchka. « Eh bien, j'irai seul. Allez, viens, Potapitch, en route. »
Je ne pus trouver M. Astley. Je rentrai chez moi. Vers 1 h du matin, j'appris de Potapitch que la Babouchka avait perdu 10 000 roubles, tout ce que je lui avais changé.